sur l'actualité avec Orange Money, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Marie Cazadebey.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver et de vous donner la parole jusqu'à 9h temps universel sur RFI. Appel sur l'actualité, nous lancerons le débat juste après le prochain journal sur la restitution du patrimoine culturel volé durant la colonisation. Le Bénin, vous le savez sûrement, réclame à la France l'ensemble de ses œuvres, soit plus de 5000 pièces. Cela pourrait ouvrir la voie à d'autres pays. Alors que pensez-vous de cette démarche? On en parle dans une demi-heure. Avant cela, bien sûr, c'est vos questions sur l'actualité. Vous vous interrogez ce matin sur les dernières tensions en Crimée, sur la réouverture de la frontière entre la Colombie et le Venezuela, sur le classement des pays les plus riches, mais d'abord sur le cas des athlètes russes au JO de Rio. On accueille notre premier auditeur, c'est Jakarija qui nous appelle de Bamako au Mali. Bonjour Jakarija.
Bonjour Marie, bonjour à tous.
On écoute votre question donc sur la présence des Russes au JO de Rio au Brésil.
Effectivement, l'athlète russe Krishna, précédemment exclu pour dopage, a finalement participé aux Jeux Olympiques. Les questions sont de savoir quelles sont les preuves citées dans le rapport McLaren visant à exclure Krishna et comment explique-t-on que l'athlète russe Krishna soit la seule à être repêchée.
Alors, donc, Daria Klichina, vous le dites, hein, a pu finalement participer contre toute attente au concours de saut en longueur au JO de Rio. On a pu la voir à l'œuvre hier. Pourtant, elle avait été dans un premier temps écartée par la Fédération internationale d'athlétisme. On en parle avec Thomas de Saint-Léger du service des sports de RFI. Bonjour Thomas.
Bonjour Marie, bonjour à tous.
Alors, première question de Jakarija, c'est qu'est-ce qu'on a pu reprocher à Daria Klichina dans un premier temps pour l'exclure de ces Jeux?
Eh bien, ce sont des preuves issues du fameux rapport McLaren, commandé par l'Agence mondiale antidopage. Rapport, on le rappelle, qui avait démontré l'existence d'un dopage organisé, d'un dopage d'État même dans le sport russe et notamment dans l'athlétisme. Dans un premier temps, Klichina ne semblait pas concernée jusqu'à ces révélations récentes de la chaîne allemande ARD, très active sur ce dossier. Selon cette chaîne de télévision, le nom de Daria Klichina serait mentionné dans le rapport. Plus précisément, il est indiqué que des flacons contenant ces prélèvements auraient été altérés, c'est-à-dire manipulés, truqués en quelque sorte. Des traces d'ADN de deux personnes différentes auraient été retrouvées sur l'un des flacons. Forcément, ça n'est pas normal, c'est que quelque chose cloche.
Alors, comment on peut expliquer qu'elle ait été finalement repêchée à la dernière minute, hein, puisque le TAS, donc le tribunal arbitral du sport, a donné sa décision juste la veille de la reprise de la compétition?
Voilà, il faut juste revenir sur quelque chose d'abord, c'est le début de cette histoire. 68 athlètes, on parle d'athlètes d'athlétisme dans la délégation russe, 67 exclus, une seule autorisée à concourir. C'est vrai que dès le départ, ça a intrigué, mais il y a une raison, c'est que Daria Klichina, elle s'entraîne depuis 2014 aux États-Unis, c'est-à-dire qu'elle est soumise au contrôle antidopage américain, contrôle qui est jugé non défaillant par l'AMA, l'Agence mondiale antidopage, au contraire de son homologue russe. C'est pour ça que l'I2F, la Fédération internationale d'athlétisme, l'avait autorisé à participer à ces Jeux, avant de faire volte-face en fin de semaine dernière, pour les raisons qu'on a évoquées un peu avant. C'est donc le TAS, le tribunal arbitral du sport, qui a décidé de la repêcher. Et là, ça n'est pas un cas unique, le cas de Daria Klichina. Plusieurs autres sportifs russes ont connu la même clémence, comme par exemple la nageuse Yulia Efimova. Yulia Efimova qui a d'ailleurs remporté une médaille d'argent dans ces Jeux. On verra si c'est le cas pour Klichina puisqu'elle est en lice tout à l'heure. Elle est qualifiée en tout cas pour la suite du concours.
Elle a commencé la compétition quand même dans une drôle d'ambiance pour elle. Jusqu'à la dernière minute, elle ne savait même pas si elle pourrait être sur la ligne de départ. Enfin, on ne parle pas de ligne de départ pour le saut en longueur. Mais donc du coup, elle a pu concourir. Elle a ce que d'autres sportifs russes pourraient être repêchés, réintégrés comme elle.
Alors, d'autres athlètes d'athlétisme, c'est sûr que non. On le rappelle, le cas de Daria Klichina est un cas unique. Et même dans les autres sports, ça paraît évidemment impossible maintenant parce que bah, tout simplement, ces Jeux Olympiques, ils sont dans leur dernière ligne droite. La cérémonie de clôture, ce sera déjà dimanche, Marie.
Alors Daria Klichina est donc la seule russe à participer aux épreuves d'athlétisme. Est-ce que ça change quelque chose pour la compétition ?
Bien sûr, parce que la Russie, c'est une des nations fortes de l'athlétisme. 17 médailles aux Mondiaux de Moscou, première du classement. C'était en 2013, beaucoup moins bien, c'est vrai, à Pékin l'an dernier, mais quand même 4 médailles, dont 2 en or. Certains athlètes russes sont les références de leur discipline. C'est bien sûr le cas de celle qu'on surnomme la tsarine, Elena Yisimbayeva, double championne olympique, triple championne du monde du saut à la perche. Forcément, son absence rabat les cartes dans ce concours. On parle d'Yisimbayeva, mais il n'y a pas qu'elle. On peut aussi évoquer le cas, par exemple, de Sergei Choubenkov. C'est le tenant du titre des championnats du monde du 110 mètres. Il n'a pas pu participer à la compétition hier et ça a profité aux Français qu'on a entendu il y a quelques minutes, puisqu'on rappelle, Dimitri Bascou a remporté la médaille de bronze d'une course gagnée par le Jamaïcain Omar McLeod.
C'est une affaire alors qui rebat vraiment les cartes sur le terrain, on le voit bien durant ces JO. Merci Thomas de Saint-Léger d'avoir été en studio avec nous pour répondre aux questions de Djakaridja qui est appelé de Bamako au Mali. On va continuer à parler de la Russie, cette fois avec Moussa, qui nous appelle aussi de Bamako. Bonjour Moussa.
Voilà Moussa Konté depuis Bamako. Bonjour Marie Kazadobé. Bonjour.
Bonjour
à tous les directeurs de RFI.
Bienvenue sur l'antenne, on écoute vos questions, Moussa.
Marie, la Russie a déployé un système de défense anti-aérienne en Crimée. Alors, je voulais savoir, qu'est-ce qui a poussé la Russie à renforcer ses positions militaires en Crimée ? Peut-on s'attendre à une réaction similaire du côté ukrainien ? Et qu'est-ce qui explique l'inaction de la communauté internationale ?
Moussa, c'est Elena Gabrielian du service russophone de RFI qui va vous répondre. Elle est avec nous en studio. Bonjour Elena.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce qui a poussé donc la Russie à déployer ce système de défense anti-aérien en Crimée, hein, une région annexée il y a 2 ans par Moscou ?
Alors effectivement, Vladimir Poutine déclare le 12 août que la Russie envoie ses missiles dernier cri, ainsi que d'autres armements et des troupes en Crimée. Leur arrivée avait déjà été évoquée en juillet et petit à petit, Moscou transforme cette péninsule ukrainienne en sa base militaire. Des exercices d'envergure Caucase 2016 sont prévus en septembre. Rappelons aussi que le Kremlin est extrêmement soucieux de l'activation du bouclier antimissile américain en Roumanie et en Pologne. Mais cette fois-ci, l'annonce sur cet renforcement militaire russe est faite dans le contexte de nouvelle escalade sur la péninsule. Le 10 août, Moscou informe d'avoir déjoué un attentat planifié par le renseignement ukrainien en Crimée. Selon la version présentée, 2 officiers russes auraient été tués et plusieurs agents ukrainiens capturés lors des tentatives d'incursion d'hommes armés. Et la Russie accuse également son voisin de faire l'usage de l'artillerie lourde. Toutefois, jusqu'à présent, personne ne serait en mesure de en témoigner et Kiev dément toute accusation qu'elle qualifie à caractère provocateur. Il faut dire que la réaction de Moscou était aussi une grande surprise. Vladimir Poutine réagit rarement aussi rapidement. En fait, cette fois-ci, il réagit immédiatement. Il parle de la nécessité de protéger les Criméens et cet incident ne restera pas sans conséquences, dit-il. Et le premier ministre russe Dmitri Medvedev, à son tour, menace Kiev de rompre des relations diplomatiques.
Alors vous l'avez dit, c'est une décision un peu surprenante, rapide, il y a d'autres enjeux. On peut donc se poser la question de l'objectif de Moscou.
Alors, il semblerait que la Russie cherche à récupérer politiquement les événements du 10 août afin de dénoncer l'absence d'avancée dans l'application des accords de Minsk en mettant la responsabilité sur Kiev. Rappelons que ces accords ont été signés avec la médiation de Paris et Berlin en février 2015 pour mettre fin au conflit dans l'est de l'Ukraine, mais ils sont loin d'être appliqués. Et après l'incident de Crimée, Vladimir Poutine fait comprendre que la nouvelle réunion en format de Normandie avec participation de la France et de l'Allemagne prévue en septembre n'aurait aucun sens.
Comment Kiev a réagi alors au déploiement de cet armement très lourd en Crimée ?
Alors l'Ukraine place ses troupes en état d'alerte maximale et positionne aussi ses chars, ses colonnes de chars au nord de la ligne de démarcation avec la Crimée. Cette réaction, on dirait que quand même reste symbolique puisque Kiev mobilise ses meilleures unités dans l'est du pays, le Donbass, où les affrontements avec les séparatistes pro-russes sont quasi quotidiens et de plus en plus meurtriers. Ce regain de tension autour de la Crimée ravive à nouveau les craintes des autorités ukrainiennes d'une nouvelle offensive et Kiev rappelle sans cesse la communauté internationale de l'intérêt stratégique de son voisin russe de conquérir la bande de terre qui permettrait de relier la Crimée à la partie du Donbass tenu par les séparatistes pro-russes.
Notre auditeur malien Moussa justement s'interrogeait sur l'inaction de la communauté internationale, son manque d'implication dans ce conflit.
Alors, en Ukraine, effectivement, on en déplore leur implication, enfin l'implication des Occidentaux sur le terrain se manifeste par la présence de 600 observateurs de l'OSCE qui n'ont aucun droit d'intervention. Et le président ukrainien Petro Poroshenko requiert une mission internationale de police dans le Donbass séparatiste, mais ces appels restent lettre morte. Et en attendant, les grandes puissances médiatrices expriment leur profonde inquiétude et appellent la Russie et l'Ukraine à la retenue. Ils espèrent toujours que la diplomatie et les sanctions adoptées par l'Occident contre Moscou prouveront leur efficacité dans la résolution de ce conflit qui paraît sans fin.
Merci Elena Gabrielian. Votre réponse aux questions de Moussa à Bamako sont à retrouver très vite sur la page Facebook de notre émission Appel sur l'actualité. Il est 8h20 en temps universel et à Daloa en Côte d'Ivoire où nous attend Apoulos. Bonjour Apoulos.
Bonjour Marie.
Vous avez une question sur la frontière entre la Colombie et le Venezuela. Le Venezuela, on vous écoute, Apoulos.
Merci bien. Voilà, les présidents de la Colombie et du Venezuela ont décidé la réouverture de leurs frontières communes respectives. Alors, pourquoi les frontières vont-elles être rouvertes maintenant? Et quelles sont les différentes étapes nécessaires pour la libre circulation des populations? Et enfin, quel sera l'impact réel de cette réouverture sur les deux pays pour la gestion et la libre circulation des personnes et des biens en Amérique latine?
Merci Apoulos. Nous sommes au téléphone avec Paola Vasquez-Lesama, docteur en anthropologie sociale et ethnologie à l'EHESS, spécialiste du Venezuela. Bonjour Paola Vasquez.
Bonjour.
Alors, c'est vrai que depuis samedi, les piétons peuvent à nouveau passer la frontière entre la Colombie et le Venezuela. Ça faisait un an que cette frontière était fermée. Est-ce qu'on peut revenir déjà à l'origine de cette fermeture? Qui en avait pris l'initiative et pour quelles raisons?
Oui, en fait, ça fait il y a un an qu'il y a eu, de la part des autorités vénézuéliennes, la décision très contestée de fermer la frontière, et pas seulement ça, d'expulser les Colombiens qui habitaient un territoire vénézuélien à la force et déclarer l'état d'exception dans toute la zone frontalière avec la Colombie. Cela répondait à une crise politique qui affecte profondément les Vénézuéliens depuis plus d'un an déjà. Parce que cette frontière c'est une frontière très très active, commerciale, et il y a toujours eu d'ailleurs historiquement des problèmes de contrebande dans cette frontière, et les autorités vénézuéliennes ont décidé de la fermer suite à la crise politique, avec surtout l'opposition qui est très active dans l'état de Táchira et dans l'état de Zulia. Donc c'est pour ça qu'ils ont pris la décision il y a un an. C'était une question surtout politique, mais ça a profondément affecté les populations.
Alors qu'est-ce qui a pu changer en un an pour qu'aujourd'hui cette frontière rouvre, en tout cas aux piétons pour l'instant?
Parce que la pression a été très forte de la part de la population vénézuélienne qui habite dans les États frontalières. Il faut comprendre qu'au Venezuela, il y a une situation pratiquement d'urgence humanitaire. Les Vénézuéliens sont dans une situation terrible de manque d'accès à la nourriture, à l'achat de nourriture et aux biens de consommation très basiques. Et la Colombie se retrouve dans une meilleure situation. C'est un peu le paradoxe, parce qu'avant c'était pas comme ça, disons que ce sont des cycles assez historiques. Donc les Vénézuéliens vont se ravitailler en Colombie. Donc c'est pour ça qu'on a eu des centaines de milliers de personnes qui sont allées chercher de la nourriture en Colombie. Mais reconnaître ça, c'est reconnaître qu'il y a un problème gravissime au Venezuela de la part du gouvernement. C'est ça l'enjeu politique, disons. C'est reconnaître qu'au Venezuela, les gens n'ont pas la possibilité de se trouver de la nourriture et des produits de base pour leur survie.
L'autre question d'Apollo, c'était de savoir, alors pour l'instant, donc, ce sont les piétons hein, qui passent cette frontière, mais rapidement, est-ce qu'il y a d'autres étapes qui vont être franchies pour que les véhicules aussi puissent la passer?
Il y a déjà une circulation, parce qu'il faut comprendre aussi que c'est une frontière marquée par la contrebande et que c'est les autorités, souvent, que c'est les institutions militaires vénézuéliennes qui sont souvent, qui se bénéficient de cette contrebande. Donc, il y a des jeux politiques très obscurs, très sombres. Et ça va venir parce que c'est une frontière capillaire. Historiquement, ça a été comme ça, c'est-à-dire les commerces. C'est extrêmement important. Les premiers partenaires commerciaux du Venezuela, c'est la Colombie et vice-versa. Donc, ça, c'est une. Couper les ravitaillements des marchandises colombiennes pour les Vénézuéliens, les coûts ont été immenses. Et d'autre part, la Colombie, bien sûr, est fournie aussi et se bénéficie de ses commerces avec les Vénézuéliens. Mais il faut comprendre ça dans une crise.
On comprend bien, en tout cas, l'enjeu, effectivement, de la réouverture de cette frontière. Grâce à vous, Paola Vasquez, docteur en anthropologie, spécialiste du Venezuela. Vous répondiez aux questions d'Apoulos à Daloa. Une dernière question. Elle nous est posée maintenant par Bala, qui nous appelle de Montreux, en Seine-et-Marne. C'est près de Paris. Bonjour, Bala.
Bonjour, Marie.
On écoute vos questions, Bala.
Alors, ma question, c'est j'approuve sur votre antenne qui est à toute difficulté d'arrêter sa place puissance économique africaine.
Alors, Bala, ligne est très mauvaise. Il y a beaucoup de bruit derrière vous. Alors, je me permets de reprendre vos questions que j'ai sous les yeux. Vous nous dites l'Afrique du Sud a repris sa place de première puissance africaine devant le Nigeria. Comment ces deux pays se situent dans l'économie mondiale et comment a été établi ce classement? C'est Alexandra Branjon, notre correspondante à Johannesburg, en Afrique du Sud, qui va vous répondre. Bonjour, Alexandra.
Bonjour.
Alors, comment l'Afrique du Sud, donc le Nigeria, se situe-t-il dans l'économie mondiale? On en revient évidemment à se poser la question de pourquoi l'Afrique du Sud aussi a devancé le Nigeria.
Oui, bah écoutez, déjà, ce sont les deux plus grosses économies du continent et elles passent numéro 1 ou numéro 2 selon les performances économiques du moment et selon les calculs. Alors, qu'est-ce qui a fait que l'Afrique du Sud est repassée numéro 1 selon le Fonds monétaire international? Le FMI base son calcul sur le PIB, le produit intérieur brut, et le taux de change par rapport au dollar. Donc d'un côté le PIB, qui est un indicateur économique de la richesse produite dans le pays, et de l'autre le taux de change qui peut être variable. Alors dans ce cas précis, le PIB l'année dernière de l'Afrique du Sud était de 301 milliards de dollars, ça s'est converti en dollars au cours actuel, et celui du Nigeria de 296 milliards de dollars, soit 5 milliards de moins. Cela s'explique par deux choses. La chute des cours du pétrole, qui constitue la principale source de devises de l'économie nigériane, et l'effondrement de la devise nationale. Depuis le début de l'année, le Naira a perdu plus d'un tiers de sa valeur par rapport au dollar, alors que sur la même période, le rand sud-africain a gagné 16%. Voilà, c'est ce qui explique que l'Afrique du Sud est repassée devant le Nigeria dans ce classement du FMI. Mais il faut souligner qu'il s'agit d'un classement basé, une fois de plus, sur le PIB, qui n'est qu'un instrument de mesure de la richesse d'un pays.
Alors, ce qui nous amène à la question suivante de notre auditeur, bah là, très intéressante. D'ailleurs, c'est comment l'Afrique du Sud et le Nigeria se situent-ils dans l'économie mondiale? On quitte maintenant le continent.
Alors, une fois de plus, si vous utilisez le PIB pour comparer, l'année dernière, l'Afrique du Sud était en 35e position sur plus de 180 pays dans ce classement du FMI, devant la Finlande, le Danemark, l'Irlande, le Portugal. Donc, a priori, ça n'est pas mal. Mais une fois de plus, ça n'est qu'un indicateur. Le PIB n'est qu'un indicateur des richesses produites par un pays. Par exemple, ça ne représente pas le niveau de vie de la population. Vous pouvez avoir un PIB élevé, mais une population qui a un niveau de vie relativement bas. Pour en revenir à l'Afrique du Sud, c'est un pays dont l'économie s'est beaucoup développée ces 20 dernières années. Quand vous venez à Johannesburg, hein, il y a une vraie richesse, il y a une bonne infrastructure routière, ferroviaire, un bon système bancaire, des télécommunications. mais c'est un pays où les inégalités sont encore très importantes. Une partie de la population vit toujours sans eau ni électricité.
Merci Alexandra Brangeon pour vos explications et merci à Bala qui nous appelait de Montreux. Beaucoup de bruit derrière lui, mais on a pu au moins profiter donc de ces questions. Restez avec nous dans une minute, on fait le point sur l'actualité africaine et on se retrouve pour notre débat aujourd'hui autour de la demande du Bénin à la France de lui restituer tout son patrimoine culturel pillé pendant la colonisation. On attend vos appels au 339 693 693 70. On attend votre avis. À tout à l'heure.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.
Priorité santé.